Bonjour et bienvenue dans Salut Teki, le podcast de Frandroid. Je suis Kassim Ketfi et aujourd'hui, on va parler un petit peu d'autre chose. On va parler d'alternatives, c'est ça Manu ?
Oui, tout à fait.
Et on va en parler aussi avec Geoffroy, que j'ai le plaisir de retrouver, qui est maintenant un habitué du podcast, on
oui,
peut le dire.
Un pilier.
Quand tu le présentes pas toi-même,
c'est ouais, ça,
tu es toujours là en chroniqueur.
Exactement. Et j'adore le rock alternatif, donc je suis pile dans le sujet.
Alors, toi, tu n'as pas lu ce que Manu a préparé.
Non, j'ai rien lu.
C'est ça, on est bien d'accord.
Mais ça tombe bien, c'est exactement ce dont je voulais parler.
On va parler de rock.
Alors c'est peut-être moi qui suis... Non, bon. Manu, aujourd'hui, du coup, tu voulais nous parler, je crois, de Huawei, si j'ai bien compris, mais c'est que le point de départ de cet épisode.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Huawei. Oui, encore Huawei. Mais cette fois, j'aimerais qu'on essaye d'avoir une vision un peu différente, un peu moins pessimiste, parce qu'on a tendance à vite les enterrer, et par la même occasion, à les sous-estimer. Déjà, faisons un petit rappel des faits. Début 2019, Huawei était le numéro 2 mondial de la téléphonie au coude à coude avec Apple. Puis en mai, voilà que le gouvernement de Donald Trump déclare que pour des questions de sécurité nationale, les entreprises américaines n'ont plus le droit de faire affaire avec Huawei, jugé trop proche du gouvernement chinois.
Ok, mais alors cette mesure, la mesure du gouvernement de Donald Trump, elle visait essentiellement les infrastructures 5G, c'est-à-dire les réseaux des opérateurs, et par lesquels transitaient en fait beaucoup de données, des données des abonnés tout simplement, et donc il y avait un risque sur la vie privée en fait.
Oui, exactement, d'où le problème de sécurité nationale, mais par effet de bord, voulu ou non d'ailleurs, ça a particulièrement touché les smartphones de la marque en Europe, qui se sont retrouvés privés de leur licence Android, et plus précisément de leurs accès au Google Mobile Services. Je vais pas refaire ici toute l'histoire, parce qu'on en a déjà assez parlé en long, en large et en travers un petit peu partout, que ce soit sur le site, sur la chaîne YouTube, ou même pendant nos podcasts, mais c'est plutôt pénalisant pour les smartphones qui se voient privés du Google Play Store, mais aussi d'un grand nombre d'applications tierces plutôt pratiques, comme Uber par exemple, qui se sert des cartes Google Maps pour géolocaliser l'utilisateur.
Oui, on l'a bien vu avec le Mate 30 Pro, d'ailleurs, le smartphone, quand il est arrivé en France, malgré son absence de Play Store et tout ça, était quand même très bon sur le papier, mais cette absence d'application le rendait à peu près aussi utile qu'un Nokia 3310, en fait.
Ouais, la résistance en moins, quand même. Mais toujours est-il que, depuis, on voit Huawei comme la marque zombie qui est désormais vouée à disparaître en Europe sous les charges incessantes d'Oppo, de Vivo ou de Xiaomi, entre autres, avide de prendre sa place. Mais c'est peut-être un petit peu hâtif.
Ouais, enfin, quand même, on sent qu'en 2019, ils étaient pas très bien, quoi.
Bah, pas tant que ça, justement. Grâce à leur smartphone sorti en début d'année et toujours équipé du Google Play Store, notamment le P Smart et les P30, Huawei se maintient à son niveau habituel en France même au dernier trimestre 2019 selon GFK. Et ça représente 19% des parts de marché sur l'année, juste derrière Apple qui a pourtant fait une super année avec les iPhone XR et XS en début d'année et 11 et 11 Pro en fin d'année. Non, en fait, le plus gros défi est à venir et il arrive en 2020 puisqu'il va falloir expliquer aux gens qu'ils ne peuvent se passer de Google.
C'est pas forcément évident ça.
Non, pas du tout, mais si quelqu'un est bien capable de le faire, c'est Huawei, puisque l'Europe n'est qu'un marché de croissance pour la marque, et c'est en Asie qu'elle fait l'essentiel de son chiffre d'affaires. Elle a donc les reins assez solides pour encaisser une petite baisse et attendre des jours meilleurs, mais ce n'est pas une raison pour attendre les mains dans les poches. Au contraire, Huawei est très actif, aussi bien pour accompagner le consommateur dans sa démarche que pour aller chercher les services qui puissent être compatibles. Et après cette introduction beaucoup trop longue, on entre vraiment dans le vif du sujet de cette chronique. Peut-on voir apparaître un nouvel écosystème capable de concurrencer Apple et Google ?
Oui, parce qu'en fait, quand je parlais de point de départ, c'est vraiment que tu veux plus du tout parler de Huawei, en fait, non ?
Pas vraiment, non, mais plutôt des acteurs chinois en général qui prennent de plus en plus d'importance dans le paysage actuel et qui se posent évidemment beaucoup de questions depuis mai dernier. Parce que oui, si Huawei a été visé et continue d'être visé par le gouvernement américain, on ne sait pas quelles pourraient être les prochaines cibles, pourquoi pas Xiaomi, Oppo ou Vivo, par exemple. Alors bon, on sait que c'est très difficile pour un acteur de venir s'imposer entre Android et iOS. Certains ont essayé.
Pourquoi tu me regardes comme ça ? Tu penses peut-être à Windows Phone ? Non, c'est ça, parce que c'est vrai que Microsoft, avec pourtant tout leur argent, ils s'y sont essayés, et bon, ça n'a pas trop marché.
Oui, et c'est pas le seul. Il y a eu Samsung également avec Bada et Tizen, ou encore BlackBerry, avec le résultat qu'on leur connaît à tous les deux aujourd'hui. Mais derrière toutes ces propositions, il y avait toujours un seul acteur, avec ce que cela implique d'engagement pour ceux qui basculent. Mais là, quoi qu'il arrive, Huawei et les autres resteront sur Android autant que possible, quitte à utiliser la version open source, comme c'est le cas sur le Huawei Mate 30 Pro, par exemple. Reste à rendre le reste de l'expérience totalement transparente. Et justement, on sait que Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo et OnePlus travaillent ensemble pour partager certaines de leurs technologies et faciliter par exemple l'intégration d'applications sur leurs App Store respectifs. Autrement dit, cela aiderait les développeurs à toucher facilement des marchés asiatiques comme l'Inde, qui est un marché en forte croissance. Geoffroy, tu ne démentiras pas. À titre d'exemple, Xiaomi, Vivo et Oppo représentent à eux trois plus de 50% du marché là-bas. Pour un pays de près d'1,4 million d'habitants, c'est une force de frappe non négligeable. S'ils s'allient, et c'est déjà le cas sur certains points en Asie, ce conglomérat de constructeurs pourrait représenter une force de frappe suffisante pour proposer enfin une alternative viable à iOS et à l'Android de Google.
Mais justement, ce serait quand même toujours Android.
Bah, la base resterait Android, mais dans sa version open source. Et c'est justement ce qui permettrait de faciliter le travail et de continuer à offrir la diversité d'interfaces et de fonctionnalités qu'on connaît aujourd'hui dans cet écosystème. Et puis, des alternatives d'Android sans Google, on a déjà vu émerger un très grand nombre, que ce soit le FireOS des tablettes d'Amazon ou la ROM personnalisée slash E. C'est une volonté d'un certain nombre d'utilisateurs de s'affranchir de l'hégémonie des GAFA aujourd'hui. Et reste à savoir maintenant si en sortir pour reposer sur l'équivalent asiatique est vraiment, vraiment intéressant. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire, mais justement, c'est un point que je trouve très important. L'industrie mobile, ce n'est pas le seul marché qu'on connaît un peu dans la tech qui est séparé entre deux géants qui se taillent la part du lion. Et moi, la comparaison qui me vient en tête, c'est avec le PC. Où tu as bon, Windows, en gros, qui joue le rôle de Android, où c'est l'OS un peu multifabricant, et tu as en face Apple, qui a moins de parts de marché, mais qui est très puissant quand même, et qui montre...
Et tu as Linux.
Justement, et j'y viens, il y a une troisième voie dans le monde du PC, c'est Linux, et d'une manière générale, le logiciel libre. Mmh. Et du coup, tu peux, sur ton PC, installer Linux dessus, et être complètement libre l'emprise de Microsoft et Apple, quoi. Ce que sur smartphone, tu n'as pas vraiment. Enfin, tu avais des petites alternatives, mais tu n'as jamais eu cette place qu'a Linux sur le monde du PC de bureau, même si ils n'ont pas des parts de marché incroyables. Il y avait quelque chose quand même sur le PC qu'on ne retrouve pas sur smartphone, et c'est vrai que tu n'as pas cette alternative, tu n'as pas ce choix-là. Je ne sais pas vraiment pourquoi il y a eu cette impossibilité de vraiment de créer une alternative comme ça libre. Est-ce que vous avez une idée, vous?
Le truc, c'est que pour un constructeur de smartphone, tout l'intérêt, et on l'a vu, les raisons des échecs de BlackBerry, de Windows Mobile, de Bada, de Tizen, c'est parce que c'est des écosystèmes qui n'ont pas réussi à attirer les développeurs. Donc, quelque part, il faut des services. Et pour attirer ces services-là, c'est toujours bien s'il y a un géant derrière qui propose énormément de services. C'est le cas d'Apple, parce qu'Apple a énormément de logiciels et d'applications. C'est le cas également de Google, puisque Google propose tout un tas d'applications offertes. Et manifestement, BlackBerry Messenger, c'était pas suffisant pour les BlackBerry, et la suite Office, c'était pas suffisant sur Windows Phone. Donc je pense qu'il y a vraiment ce côté-là aussi, attirer les développeurs, déjà parce que tu vas avoir un écosystème fort initialement, et c'est là où ça peut être compliqué. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu passerais sur un écosystème qui a moins d'applications que les autres?
C'est vrai que Linux a autant d'applications et autant de jeux, en tout cas que macOS, parce que c'est vrai que sur Windows, ça passe. Mais en fait, c'est ce côté, justement, système un peu libre qui n'a pas d'application, j'en parlais à la fin de ma chronique, c'est justement ce qu'on peut retrouver sur des ROM alternatives comme slash E. Mais ça demande aussi, comme Linux d'ailleurs, d'être un petit peu plus pointu, un peu plus technique, ne serait-ce que pour l'installer, puisque ça va demander de prendre un téléphone normal et de le router, etc.
Oui, on n'imagine pas un smartphone directement vendu ce serait assez difficile de le commercialiser, effectivement, un smartphone directement avec un logiciel alternatif. Mais par contre, sur PC, je peux acheter un PC sous Windows et installer Linux à la place, virer Windows, installer Linux. Sur smartphone, c'est plus compliqué, c'est moins...
Je rappellerai juste deux expériences quand même sur smartphone. C'est vrai que c'est plus compliqué, mais il y a eu, il y a 5-6 ans, deux OS mobiles qui ont voulu se lancer et qui étaient des alternatives justement open source. Je pense à Ubuntu Mobile et qui finalement n'a jamais fonctionné et ils n'ont pas trouvé de partenaire pour les vendre. Par contre, il y avait Firefox Mobile et Firefox Mobile était donc c'était un système d'exploitation à part entière basé sur le web, donc basé sur Gecko qui est le moteur de rendu de Firefox. Et Firefox Mobile était proposé sur des téléphones de chez ZTE, de chez Alcatel, et ils avaient vraiment, on pouvait acheter un téléphone sous Firefox Mobile directement.
Et pour le coup, encore une fois, la ROM slash E, j'en parle plusieurs fois, on commercialise des téléphones directement avec cette ROM. Alors je ne sais plus lesquels, c'est que des vieux téléphones, hein. Je crois que c'est des Nexus 5 et des LG G 3, 4, 5, un truc comme ça. Mais en tout cas, on peut acheter directement le smartphone.
Si je dis pas de bêtises, non ?
Je ne sais plus.
Okay.
J'ai l'impression que justement, c'est un problème de peut-être même presque hardware, de fermeture, si j'avais bien suivi la chose. De pilotes, par exemple, de gestion de la couche réseau par Qualcomm, etc., qui sont des fois pas forcément libres. En fait, les drivers, par exemple, ne sont pas forcément libres. Et effectivement, la ROM slash E, c'est une ROM alternative, mais elle reste basée, si je ne me trompe pas, sur Android.
Enfin, ça reste
Android open source. Et Android open source, ça reste pas un truc, malgré ce que dit Google, c'est pas un truc complètement libre et open source. Enfin, c'est, ça n'a pas, en tout cas, cette liberté que peut offrir un Linux qui est complètement ouvert sur PC. J'ai l'impression que sur Android, enfin, par exemple, c'est Google qui va quand même dicter les futures nouveautés d'Android. Un jour, la ROM slash E, par exemple, aura des nouveautés que Google aura dictées. Bah, par exemple, dans Android 11, ça reste Google le meneur, en fait, du développement.
Bah, si la ROM a envie de le suivre, oui, mais en fait, rien ne l'empêche de prendre la branche d'Android 6 s'ils en ont envie, et après, de la développer comme eux en ont envie, et de faire ce qu'ils veulent. Après, c'est sûr que, bah, évidemment, il faut toujours quand même un chef de projet pour essayer de faire avancer un petit peu le truc, parce que sinon, ça risque de rapidement devenir bordélique avec des bouts de code un petit peu partout.
C'est vrai.
Et j'ose pas imaginer à quoi ressemblerait la branche AOSP d'Android. Et si on cherche à avoir des mises à jour majeures tous les ans, il vaut peut-être mieux pas que ça finisse comme ça.
Mais du coup, pour revenir un peu au sujet central, je me suis un peu éloigné, désolé, avec mon idée d'un Linux, mais tu me tendais la perche.
C'est une alternative, hein, on en parle, on parle d'alternative.
Bien sûr, mais du coup, pour revenir un peu aussi au cœur de la chronique, on a beaucoup parlé de Huawei, on a beaucoup parlé des fabricants chinois. C'est vrai que toi, tu as beaucoup travaillé dessus quand tu as analysé les marchés justement asiatiques. C'est vraiment cette particularité du marché chinois où Android, tu le disais, est le numéro 1.
C'est le titre de mon article, en fait. Android représente 94% du marché là-bas. C'est-à-dire qu'iOS, ils ont seulement 6%. Enfin, Apple n'a que 6% du marché en Chine. En revanche, tout le marché Android, c'est du marché sans Google, puisque Google n'a pas droit de citer en Chine. Donc, tous les téléphones sont vendus sans service Google, comme on l'a découvert avec le Mate 30. Et on a aussi testé un deuxième téléphone sur Android où il n'y a pas de service Google. C'est le Honor View 30 Pro, qui va probablement sortir en France. On verra dans les prochains jours avec le MWC. Je fais des crochets avec les mains. Donc du coup, en Chine, ils ont l'habitude de ne pas avoir de service Google. Et du coup, c'est les constructeurs qui proposent tous ces services-là. Donc tout ce que Huawei fait avec les HMS, donc les Huawei Mobile Services, pour remplacer les Google Mobile Services, en fait, ces services-là, ils les utilisent déjà en Chine pour des applications. C'est-à-dire que toutes les applications chinoises qui ont besoin de géolocalisation ne passent pas par Google Maps, mais par une alternative qui existe déjà là-bas, qui est conçue par Huawei. Et c'est le cas, pour le coup, pour tous les constructeurs. C'est-à-dire que les constructeurs chinois en Chine doivent proposer chacun leur propre mobile services. Ils ont leur propre magasin d'applications sur leur téléphone. Et si on prend un téléphone Oppo, Xiaomi, Vivo, Huawei, à chaque fois, ça va être des boutiques d'applications différentes, des services mobiles différents, mais par contre, ça va être les mêmes applications. Donc les développeurs doivent faire plusieurs versions de leurs applications pour la Chine.
Après, je ne pensais pas forcément au marché chinois quand j'ai rédigé ma chronique, mais plutôt au marché indien. C'est pour ça que je l'ai expressément cité. Parce que justement, le marché chinois est vraiment très fermé, là où le marché indien est plus libre. Mmh. Et si tu as envie d'avoir un smartphone Google, tu peux avoir un smartphone Google. Mais ça va du coup davantage attirer les développeurs qui auront peut-être moins l'impression d'être enfermés ou bridés dans leurs possibilités. Parce que c'est vrai que les acteurs américains en Chine ne sont pas forcément les bienvenus, pas que Google. Hein, là où en Inde, c'est beaucoup plus accueillant, j'ai envie de dire. Mais en fait, l'Inde est aujourd'hui un marché de forte croissance pour tous les constructeurs.
Sauf pour Huawei, hein, pour le coup, parce que Huawei n'est pas présent en Inde. Ils ne vendent pas de téléphone là-bas.
C'est vrai. Mais les constructeurs comme Oppo et Xiaomi notamment, et
Realme,
OnePlus également, misent énormément sur ce marché parce qu'ils y voient un énorme levier de croissance, et à raison d'ailleurs. Et l'intérêt de voir Huawei justement se mettre en partenariat avec Oppo, Xiaomi, Realme, OnePlus, etc. Enfin, tout le groupe BBK déjà, ça va attirer les gens qui veulent s'attaquer au marché indien autrement que par Google.
Ouais. Oui, non, c'est vrai que ça peut être une bonne alternative. L'Inde, c'est le deuxième marché du monde. C'est déjà le deuxième pays avec le plus d'habitants au monde après la Chine. Et même en termes de nombre de smartphones vendus par an, c'est le deuxième marché du monde. C'est un marché où le smartphone représente seulement 50% des appareils mobiles. Les autres 50%, c'est encore des feature phones. Donc c'est en ça, justement, qu'il y a une forte croissance. Et aujourd'hui, c'est un marché où la croissance, le nombre de smartphones vendus d'une année par rapport à la précédente, est beaucoup plus fort qu'en Chine, justement. En Chine, ils arrivent à une stabilisation, comme on l'a connu en Europe, comme on l'a connu aux États-Unis. États-Unis. En Inde, ils sont vraiment, il y a énormément de smartphones qui sont vendus pour remplacer justement les téléphones portables.
En fait, on est encore là-bas dans un marché où, vu que le marché ne s'est pas stabilisé, c'est justement le moment où il y a une opportunité pour créer un acteur fort.
Clairement.
Surtout sur un marché avec autant de clients potentiels, c'est là où tu peux te créer une base forte, justement d'une base d'utilisateurs critique qui va permettre de donner des raisons aux développeurs de continuer de développer des applications pour ta plateforme, plutôt, enfin, en plus d'Android et iOS, ouais. Et ne pas négliger totalement ta plateforme, et donc bah, peut-être pouvoir après t'exporter et créer une vraie alternative justement à Google et Apple.
Et on en parlait, enfin Manu en parlait, mais effectivement c'est les constructeurs chinois qui ont réussi à tirer leur part du gâteau, parce que le numéro 1 là-bas c'est Xiaomi, suivi de Samsung, mais par contre tous les autres c'est des Chinois, c'est Oppo, c'est Vivo, c'est Realme, donc c'est les marques du groupe BBK Electronics. Le numéro 1 sur le premium là-bas c'est OnePlus, c'est pas Samsung, c'est pas Apple, donc vraiment c'est un marché qui est déjà conquis aux marques chinoises, et le fait de proposer effectivement, parce qu'on l'a pas précisé, mais l'idée qu'il y a derrière cette association des différents constructeurs, en fait c'est ce qu'on appelle la GDSA, donc la Global Developer Service Alliance, qui est un service, une fonctionnalité que Huawei, Xiaomi, Vivo et Oppo veulent proposer aux développeurs, qui est de permettre aux développeurs d'applications d'uploader leurs applications sur les boutiques des différents constructeurs en même temps.
Voilà. Ouais, l'idée c'est de un peu uniformiser, j'imagine, le code, enfin la façon dont t'appelles les API des différents fabricants, etc.
C'est
de standardiser un petit peu la façon dont tu développes une application.
Et
pour que t'aies plus qu'à faire un clic et en gros tu te retrouves sur le Mi Store, tu te retrouves sur.
Et j'imagine que ça veut dire aussi faire des services mobiles qui sont compatibles avec tous les constructeurs aussi.
Ça va même encore plus loin, puisque on en a discuté avec Oppo récemment, et en fait le but c'est de carrément créer un partage de technologies entre les différentes marques, et notamment la fonction de qui ressemble à AirDrop. Chez Oppo, va être partagé également avec des smartphones Vivo, Xiaomi, etc. Donc en fait, le AirDrop qu'on a sur iOS et qui manque justement sur Android pourrait être disponible sur tous les smartphones de ce groupe chinois. Et donc vraiment créer un écosystème au sein de l'écosystème Android. Ouais.
Et qui soit différent de celui de Google, parce qu'on sait que Google travaille également sur une fonction de partage de proximité qui devrait peut-être arriver dans Android 11, on ne sait pas encore, parce que pour l'instant on est seulement à la première developer preview, mais on sait que Google travaille aussi activement dessus. Donc ce serait effectivement potentiellement un concurrent de ce service et de cette fonctionnalité chez Google.
Mais justement, c'est marrant comme immédiatement quand on parle d'alternatives sur le marché du smartphone, la conversation s'est très vite décalée sur le sujet des applications et de la boutique d'applications, parce que c'est vraiment le sujet clé en fait de n'importe quelle alternative. Tu l'expliquais un peu avec la situation de Huawei qui s'est retrouvée sans Play Store, donc on comprend potentiellement les difficultés que ça peut avoir en France. Effectivement, je rappelais le cas de Windows Phone, c'est ce qui a tué Windows Phone, c'était à l'époque de ne pas avoir Snapchat, de ne pas avoir telle ou telle application
Instagram.
À la mode, Instagram pendant longtemps, enfin des applications qui étaient très à la mode au moment où elles sont arrivées, qui étaient sur Android, sur iOS, puis tu ne l'avais pas sur Windows Phone, donc tu n'avais pas envie de prendre le risque, le téléphone étant au même prix que celui sur Android, autant prendre celui où il y a les applications. Quoi.
Et disons-le très clairement, quand on a testé le Mate 30 Pro sur les 40 applications que j'ai pu tester, donc qui étaient parmi les applications les plus populaires, j'ai regardé si elles étaient disponibles sur l'App Store, donc a priori Huawei va faire des progrès, mais au moment du test du Mate 30 Pro, il y en avait deux qui étaient disponibles sur l'App Gallery, donc la boutique de Huawei. C'est très peu.
Et c'est là où justement je disais que Huawei est peut-être l'un des rares à pouvoir survivre à ça, parce que aujourd'hui en fait Huawei a pris les 150 applications, c'est pas 40, 150 premières applications, les applications les plus téléchargées sur le Play Store dans chaque pays, et à chercher des alternatives. Alors des alternatives, ça peut être pour des applications telles que celles de Google qui n'arriveront jamais sur le store de Huawei, de tout simplement ouvrir votre navigateur, parce que par exemple YouTube, si vous n'avez pas l'application, vous pouvez toujours consulter vos vidéos depuis le navigateur. Proposer des alternatives, que ce soit par installer un APK depuis une boutique tierce, etc. Mais surtout, de eux-mêmes aller voir les développeurs et essayer de voir comment ils pouvaient créer un partenariat pour qu'en fait ces développeurs revoient leur application ou les mettent sur leur propre store, sur l'App Gallery de Huawei, et faire en sorte qu'en fait, voilà, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, vous avez plus ou moins accès aux 150 applications que vous pourriez avoir envie de télécharger directement.
Ils avaient annoncé un budget, justement.
C'est ça, je crois que c'est 2 milliards de dollars au total.
C'est
énorme.
D'allouer à, on va payer, en gros, justement, le portage, s'il faut financer le développement, le portage, de telle et telle application sur leur boutique.
C'est un budget énorme, sachant que moi j'avais discuté, du coup j'étais chez Honor, donc Honor qui appartient au groupe Huawei, j'étais chez Honor en décembre, et ils nous expliquaient que a priori ça devrait prendre, enfin l'objectif c'est que ça prenne 24 heures, moins de 24 heures, pour un développeur de porter son application sur les HMS, donc les services mobiles de Huawei, et de l'uploader sur la galerie. Donc c'est très, enfin l'objectif c'est que ça soit très rapide aussi
après,
du côté de Huawei.
C'est une stratégie qu'avait déjà employée Microsoft, j'y reviens du coup, justement pour Windows Phone à l'époque, bah, parce que Microsoft, ils ont aussi cette caractéristique d'avoir un trésor de guerre et de pouvoir ouvrir le chéquier si, quand ils en ont besoin. Et ils avaient aussi été allés voir Instagram et compagnie pour convaincre, au point où même des fois, l'application était développée en interne chez Microsoft. Genre l'application, je me rappelle, je crois l'application YouTube et l'application Instagram avaient été développées en interne. Et du coup, bon, donc voilà, Microsoft avait ouvert le chéquier et ça leur avait pas suffi. Notamment, il y avait un gros problème qu'ils avaient, c'était la question des mises à jour d'applications. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir l'application qui arrive sur ta boutique. Après, il faut que derrière, quand par exemple Instagram toujours va proposer une nouvelle version de son application avec, je sais pas moi, les messages privés ou le mode sombre, il faut que le mode sombre il soit disponible aussi chez Huawei. Quoi. Il faut que l'application la suive.
Mais il y a une grosse différence entre Huawei et Microsoft. C'est les parts de marché. C'est-à-dire que Microsoft, je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça représentait quoi, 15% de parts de marché Windows Mobile au
Alors,
plus
c'est,
fort.
C'est ça qui est intéressant dans le parallèle que tu fais. Oui. Bah justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que Microsoft, ils avaient effectivement atteint les 10-15% de parts de marché, mais en Europe.
Ouais.
Mais leur marché national, le marché américain, eux, ils ont toujours été, ils ont stagné autour des 3%.
Voilà.
Ils n'ont jamais réussi à décoller. Le cas de Huawei, c'est justement qu'ils sont forts chez eux. En fait.
Ouais, ils sont extrêmement forts. Ils sont à 40% de part de marché en Chine, Huawei.
Et je pense que c'est clé dans le fait qu'ils aient les moyens et qu'ils aient la volonté, surtout plus que les moyens, je pense, la volonté et la stratégie de pas abandonner et d'y aller quand même, parce qu'ils ont ce poids déjà en Chine, en fait.
Et encore une fois, ça tourne sous Android, donc les mises à jour vont être beaucoup plus simples.
Oui, c'est beaucoup plus simple de porter sur le même système. En gros, ils ont juste quelques lignes de code à changer en disant on n'appelle pas telle API pour la géolocalisation ou pour l'identification, mais on va appeler plutôt telle API. Donc, grosso modo, tu changes les lignes des API et ça fonctionne.
L'appel à Google Maps, tu le remplaces par un appel éventuellement à OpenStreetMaps ou TomTom ou un autre fournisseur de cartes. Quoi.
C'est ça.
Mais du coup, justement, est-ce que, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais est-ce que Google qui propose des nouveautés pour Android, on le voit de plus en plus, est-ce qu'ils ne peuvent pas forcer la main à travers le code d'Android pour essayer de verrouiller la plateforme ou quoi ? Est-ce que ça peut être une crainte justement pour un Huawei ou pour les autres marques qui essayent peut-être de créer une alternative toujours en se basant sur AOSP ? Est-ce que justement il ne pouvait pas y avoir une crainte d'un verrouillage à terme d'Android et d'un empêchement comme ça de... Est-ce que ce n'est pas forcément dangereux de se reposer sur le travail, un travail tiers finalement avec AOSP ?
Je pense que de toute façon, en fait, ils ne pourront rien faire puisque comme je disais juste avant, la base est déjà là. On voit aussi que Android évolue assez peu. Android 11 aujourd'hui, c'est pas énormément d'évolution par rapport à Android 10, en tout cas d'évolution visible et fonctionnelle. Ce qui fait que aujourd'hui, n'importe quel constructeur qui prend la branche open source qui existe déjà d'Android 10 et qui a envie de partir là-dessus pour faire évoluer son système de son côté, en fait, ça suffit. Et si Google a vraiment envie de verrouiller et de changer pour faire en sorte que les applications qui sont sur le Google Play Store soient plus compatibles avec ça, bah, ça voudrait dire que en fait, c'est eux qui devront changer tout de leur côté pour rendre leur système totalement différent de l'Android 10 qu'on connaît aujourd'hui, pour embêter les autres constructeurs. Enfin, c'est pas trop dans la mentalité de Google jusqu'à présent. Et à la limite, la plus grosse frayeur, le problème qui pourrait se présenter sur la route de ce conglomérat chinois, c'est plus l'arrivée d'un nouvel acteur conçu par Google, à savoir Fuchsia, qui pourrait justement s'installer partout et prendre le relais sur Android, et là, par contre, être beaucoup plus fermé.
Sachant qu'il y a autre chose aussi, c'est que Google, depuis plus d'un an, facture ses services mobiles. Donc, grosso modo, la version Android de Google est facturée, là où AOSP ne l'est toujours pas. Donc, est facturée, d'après ce qu'on avait vu à l'époque, autour de 35 € justement par téléphone, même si ça doit varier, j'imagine, d'un constructeur à un autre et que les prix doivent être négociés. Mais sur certains téléphones d'entrée de gamme, ils ont quasiment tout intérêt aujourd'hui. Enfin, Google a tout intérêt à vouloir continuer à proposer ces services, là où les constructeurs chinois, ils ont tout intérêt à s'en émanciper un peu.
Mais là, on a beaucoup parlé d'alternatives chinoises, effectivement, parce que les fabricants ont leur marché national, on l'a dit, notamment avec Huawei, et ils ont aussi ce début d'emprise sur le marché indien, qui est très réceptif à leur marque. Moi, j'ai envie de vous poser une autre question, parce qu'on a parlé de l'Asie, on a parlé des États-Unis. Une alternative européenne, ça pourrait arriver ou... Et pourquoi vous...
Kassim, Nokia ne reviendra pas, il va falloir t'y faire au bout d'un moment.
Nokia, Quant, tous ces services, on a quand même des...
Bico.
Bah, on a quand même un savoir-faire...
Arcos.
Bon, ok, je vais demander ma
question. Non, mais, ouais.
Non, mais plus sérieusement, est-ce que du coup, non, mais on voit l'Union... Alors, blague à part, on voit l'Union européenne est quand même assez à cheval sur la protection de la vie privée, essaye de favoriser la concurrence. On voit qu'ils sont en train de surveiller un peu Apple et on voit que visiblement Apple commence un peu à se préparer avec iOS 14, peut-être commence à se préparer à certaines idées de plainte. On voit Spotify qui est européen, on le rappelle. Là, leur plainte qu'ils ont par rapport à des App Store et le pourcentage, la commission que peut prendre Apple.
En fait, je pense que tu as justement... mis parfaitement le doigt sur ce qui ne va pas avec un système européen. Enfin, avec un système européen, c'est justement l'Europe qui verrouille la vie privée, là où les Chinois et les Américains ont beaucoup plus de liberté.
Ouais, mais justement, du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte d'OS libérateur, protecteur de la vie privée qui pourrait naître en Europe et avec justement mettre en avant des trucs comme Spotify, des alternatives européennes ou essayer de développer quelque chose? Est-ce qu'on n'aurait pas un coup à jouer là-dedans?
Quant OS.
Bon, je crois que.
Le problème derrière, c'est qu'il faut aussi qu'il puisse être rentable. Et pour être rentable sans vendre des données. Tout de suite, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, ça voudrait dire un OS soit vendu plus cher que la concurrence, soit avec des publicités, soit. Enfin.
Et il manquerait. En fait, je crois que.
Il manquerait les applications.
Il manquerait les applications. Puis Geoffroy, plus que les applications, en fait, il manquerait un fabricant. J'ai l'impression que tu pointais un peu du doigt en te moquant de mon rêve de retour de Nokia ou de Arcos, parce que Nokia, les smartphones aujourd'hui sont développés par un fabricant. Officiellement en Finlande, mais en vrai c'est développé en Chine quoi, avec HMD Global. Du coup effectivement il n'y a plus trop de fabricants réellement européens d'appareils et du coup il n'y aurait pas forcément un fleuron, un représentant, un porte-étendard pour cet éventuel OS européen, ce compte en OS, j'ai envie de l'appeler comme ça du coup.
Mais même en revenant sur on aura fait le tour parce qu'on revient à ta première question, mais on revient sur le même problème, c'est-à-dire que il pourrait très bien y avoir un Quant OS ou que sais-je, le problème étant toujours le même de il faut qu'il y ait suffisamment d'utilisateurs pour que les développeurs s'intéressent, et il faut qu'il y ait suffisamment d'applications pour que les utilisateurs s'intéressent. Et on va retrouver le même problème qu'on a eu sur BlackBerry Mobile, sur Windows Phone, et sur tout plein d'autres OS qui ont, sur Bada, sur Tizen, sur plein d'autres OS qui ont dû fermer parce que, pour faute d'utilisateurs, et que ça servait à rien. Enfin, ça servait à rien. C'était pas utilisé, en tout cas.
Et du coup, est-ce que quelqu'un qui utiliserait ce superbe Quant OS respectueux de la vie privée aurait envie d'installer Facebook sur son smartphone?
Non, mais il pourrait très bien avoir envie d'utiliser je sais pas, des trucs.
C'est un autre débat.
Non, mais par exemple, j'en parlais à deux secondes, il y a un truc comme Spotify, t'aurais envie éventuellement d'y avoir accès. C'est pas forcément un truc qui agrège énormément de données privées.
Ou WhatsApp.
Bien sûr, ils s'en servent. Mais...
Même si Facebook, c'est WhatsApp, WhatsApp reste privé, a priori.
Une certaine mesure.
Les données sont chiffrées, donc...
Manu, Open...
Ou Signal, non mais si on reste sur de la messagerie Signal, pareil, il faudrait que Signal porte son application.
C'est vrai qu'on revient, moi, à mon regret de ne pas pouvoir vraiment créer, installer sur son smartphone un vrai OS qui garantit la sécurité de la vie privée et qui, pour vraiment, certes, c'est peut-être pour une niche, mais qui mettrait en avant Signal, qui mettrait en avant des services comme ça, des alternatives souvent basées sur de l'open source et vraiment respectueuses de la vie privée. Et qui ne vont pas justement essayer de te traquer.
Je pense que les gens aujourd'hui ne sont pas assez intéressés par leurs données pour pouvoir faire émerger tout un système aujourd'hui qui serait capable de rivaliser contre l'iPhone et Android en général, l'Android de Google en tout cas.
Je voulais revenir aussi sur un autre élément, c'est aujourd'hui, certes on achète des smartphones sous Android, on achète des smartphones... des iPhones du coup sous iOS, mais ils s'intègrent dans un écosystème qui est plus large. On a surtout chez Apple, ils sont connus quand même pour leur écosystème où t'es quand même un peu, t'es plus confort quoi, quand t'as un Apple TV, t'as ton MacBook, t'as tes écouteurs AirPods, puis
t'as un Apple Watch.
En plus t'as la classe devant les copains, tu vois tout ça. Bref, en tout cas, il y a effectivement une sorte de construction d'écosystème chez Apple qui est assez connue. Mm-hmm. Mais du coup, s'il y a une alternative qui se crée sur le marché des smartphones, il va falloir aussi peut-être penser à un écosystème alternatif plus large que celui du smartphone.
Et ça, c'est clairement une des stratégies chez Huawei. C'est-à-dire que Huawei, depuis, alors, ça fait déjà un moment en Chine qu'ils proposent énormément d'accessoires et tout un écosystème. Xiaomi le propose aussi depuis un moment. Et Huawei va le lancer en Europe, enfin, a déjà commencé avec des ordinateurs, avec des montres connectées. Ils veulent travailler avec des fabricants d'automobiles, je crois aussi, pour avoir des systèmes connectés là-dessus, des téléviseurs. Et tout ça, justement, ça fait partie de cette stratégie d'écosystème.
Et il me semble que Oppo aussi commence déjà un peu à réfléchir à tout ça. Okay.
Mais alors du coup, ok, les fabricants chinois ont des écosystèmes. Et du coup, il y a un fabricant, je trouve, dont on n'a pas parlé beaucoup. Et je crois que Geoffroy...
Arrête avec Nokia.
Alors non, c'était, non, c'était Microsoft d'ailleurs. Ah. Avec... non, Microsoft, on pourrait revenir. Mais non, je voulais te relancer sur un fabricant un peu plus connu de smartphones. Un peu plus
qui
important.
Qui serait le meilleur ami de Google.
Qui serait effectivement le meilleur ami de Google. Que, il me semble que tu as écrit un article dessus il n'y a pas longtemps. Et je trouve que c'est un peu dans ce sujet-là parce qu'on parle de Samsung, en fait. Oui, oui. Du coup, le fabricant sud-coréen qui est numéro un du marché.
Ouais.
Et lui, pour l'instant, il est encore à fond dans l'Android de Google.
Ouais.
Et du coup, voilà, est-ce qu'il lui, il aurait un intérêt à créer une alternative? Est-ce qu'au contraire, justement,
il est à fond. Foiré deux fois. C'est ça, il est à fond sur l'Android de Google parce que il a connu justement le. Enfin,
Bada.
Quand on parlait de Bada et de Tizen, les deux sont des erreurs de la part de Samsung. Enfin, sont en tout cas des projets de la part de Samsung qui ont floppé plus ou moins. Bada a plus floppé que Tizen parce que Tizen, on le retrouve maintenant sur les montres.
Leur télé peut-être aussi.
Et peut-être sur leur télé. Mais oui, sur leur télé. Mais effectivement, aujourd'hui, s'il y a bien un constructeur que Google a intérêt à chouchouter, c'est Samsung, parce que Samsung est le numéro un mondial, et aujourd'hui, quand on regarde le top 6 mondial des constructeurs de smartphones, tous les autres, c'est les Chinois qui veulent se casser, à part Apple, mais Apple n'ira jamais sur Android.
Oui, c'est un peu, mais du coup, justement, c'est un peu le seul fabricant pas chinois qui essaye de s'émanciper. Et
exactement.
Coup, ils peuvent travailler leur relation avec Google. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment la conférence du Galaxy S20 où il faisait à nouveau appel à Google sur scène.
Ouais.
Alors quand même qu'on avait vu...
Et c'est pas n'importe qui de Google qui est venu, c'est le patron d'Android, clairement, c'est Hiroshi Lokheimer en plus.
Oui, alors que les années précédentes, il ne citait même plus Android et il ne voulait plus admettre que le Galaxy tournait sous One UI, il ne voulait plus parler d'Android.
Ils voulaient vraiment créer leur marque indépendante d'Android. Ils voulaient qu'on parle de Samsung Galaxy, pas de smartphone
et
Android.
Ça a marché,
et ça a marché. Donc,
les chargeurs Samsung, tout le monde autour de nous, et même chez nos auditeurs et auditrices, ont dû entendre des gens leur demander un chargeur Samsung, même s'ils avaient un HTC.
Alors des fois, c'est un peu malheureux, parce que des fois, ils traduisent certaines fonctions de base d'Android dans leur version avec One UI, et ça foire un peu quand ils envoient des notifications à tout le monde, les gens paniquent un peu, et c'est là aussi où tu te rends compte du poids de la marque Samsung quand tu vois à quel point ça crée un phénomène parce que tout le monde, enfin beaucoup
que
de monde,
il y a eu un bug de bêta testing.
C'est ça, mais toujours donc pour revenir au sujet, en tout cas, du coup Samsung continue d'utiliser Android sur smartphone, mais t'en as parlé, ils utilisent Tizen OS sur télé et sur d'autres appareils, et en fait Google n'a peut-être pas réussi autant qu'il le voulait à répliquer le succès d'Android sur les autres éléments de son écosystème, notamment Android Télé, par exemple, qui...
Android TV est quand même utilisé par Sony, par Philips.
TCL,
Il y a des marques qui utilisent Android Télé, mais ils n'ont pas réussi à répliquer exactement l'écosystème qu'ils ont réussi à trouver ou ils se sont imposés comme... soit t'as Android, soit t'as rien.
C'est vrai que quand on pense LG ou Samsung, ils ont tous les deux leur système propriétaire. Panasonic aussi, de mémoire, ils ont leur OS mobile à eux.
Donc et les fabricants chinois, justement, qui se lancent, qui arrivent en force dans le domaine de la télé connectée avec la télé de OnePlus et d'autres éléments.
Même Huawei et Honor, ils ont Harmony OS sur les téléviseurs.
Mais du coup, voilà. En tout cas, ça va... Peut-être justement, c'est sur cet écosystème qu'ils vont pouvoir jouer, comme on l'a dit avec Huawei, sur ce écosystème multi-appareils, ils vont peut-être pouvoir jouer pour créer une vraie alternative. En tout cas, on verra. Est-ce que vous avez une dernière chose peut-être à ajouter sur cette création d'alternative?
J'étais content parce que même si on n'a pas parlé de rock alternatif, eh bien ça s'est bien passé.
On aurait pu parler de l'essentiel, de la tentative de créer une maison connectée, mais je crois que ça s'est pas très bien passé non plus.
On respecte les disparus.
Mais c'est vrai que du coup, tu me tendais la perche tout à l'heure. Je voulais quand même mentionner, j'en avais parlé avec Manu quand on préparait l'épisode de Microsoft, parce que je trouvais marrant qu'on fasse l'épisode cette année alors que Microsoft annonce justement son retour sur le marché du smartphone,
oui.
mais sans Windows Phone, bien sûr, avec Android. Et alors, eux, ils vont à fond dans l'Android de Google, c'est, il y aura le Play Store, et ça va être vraiment... ils veulent dire, ils ont bien insisté sur le fait que non, non, on n'y va pas tout seul, on essaie de créer une alternative ou quoi que ce soit, on y va avec le Play Store, vous allez avoir Google Maps, et carrément YouTube, Google Maps et compagnie dans le trailer du téléphone. Quoi.
En fait, eux, c'est un petit peu plus subtil, parce qu'ils n'essayent pas de chercher une alternative à Google, ils essayent de chercher une alternative au smartphone.
Ouais. Oui, c'est
et surtout, ils ont complètement changé de stratégie, c'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment un fournisseur de services, plus qu'un fournisseur de systèmes sur lesquels vont se baser les services. Donc, quand on pense à typiquement l'application Office qui a été lancée là tout récemment, c'est du service à l'état pur.
J'allais le dire, et justement, c'est, tu vois, comme quoi tout concorde vers cet épisode de podcast, toute l'actualité en ce moment, c'est incroyable. Ouais. On a dû couvrir au moins 5 ou 6 actualités ou dossiers dans ce podcast, c'est assez fou. Mais justement, je crois qu'on a assez couvert l'actualité dans ce podcast. Vous voyez que je n'arrive plus à parler, à aligner les mots, donc il est temps de terminer cet épisode. Mais du coup, donc, oui, je pense qu'on n'a plus rien à dire sur cet épisode, et je crois qu'il va être temps de conclure. Vous ne m'arrêtez pas.
Oui, non, je pense qu'on... Effectivement, ça fait un petit moment.
Vite, avant que les auditeurs trouvent une alternative à Salutech.
Oh là là. Mais justement, alors, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Comme toujours, n'hésitez pas à venir participer dans le débat, là, et aller venir dans les commentaires, dans l'article qui est en lien dans les notes de l'émission, et à nous dire un peu... Bah déjà, si vous rêvez d'une alternative, quel est le fabricant, par exemple, qui serait le plus à même de proposer cette alternative? Est-ce que c'est Nokia? Est-ce que c'est Microsoft? Est-ce que c'est Sony? Est-ce que c'est Huawei? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Quant? Est-ce que Quant OS, vous y croyez? N'hésitez pas à venir nous le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez notre podcast et si vous voulez vraiment recommander peut-être Salutech comme une alternative, comme disait Manu, aux autres podcasts, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcast ou dans votre application de podcast préférée. Et moi, je vous dis une nouvelle fois merci et à la prochaine. Ciao.
Salut.
Bye.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.